Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Michaud, avec qui nous allons parler de botanique appliquée ou comment faire fleurir l'être humain. Après des études de droit et à la suite d'un burn-out, Christine a suivi pendant près de 20 ans des formations autant en Amérique qu'en France autour du sujet du bonheur. Auteur de 10 best-sellers dont Mon projet de bonheur et Une irrésistible envie de fleurir, Christine a également publié Le petit cahier d'exercices pour attirer à soi bonheur et réussite, qui a été traduit dans de nombreuses langues. Bonjour Christine. Bon, je l'ai raccourci hein, toute la présentation. C'est dur de faire tenir en quelques phrases un parcours aussi long.
Ah, mais c'était parfait. Donc, c'est un parcours qui paraît long, mais qui a été quand même très agréable aussi. J'adore ta présentation sur la botanique appliquée. Je pense que je vais te l'emprunter, cette expression.
Écoute, j'ai hésité, je dois t'avouer. Je me suis dit, est-ce que c'est trop?
Non, pas du tout. Ça fait du bien.
Bon, super. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient une experte du bonheur, si je dois le résumer?
Oui, ben en fait, on dit bonheur. En fait, c'est la psychologie positive, mon expertise, ce n'est pas de la pensée positive. Il faut toujours faire attention. L'appellation est ressemblante, mais c'est complètement différent. C'est surtout pas non plus de la pensée magique ou comme je le dis souvent aux adhérents PM, on s'en ira pas au pays des licornes ensemble, n'ayez crainte. Alors, la psychologie positive, c'est plutôt un champ d'application de la psychologie traditionnelle, mais c'est un élan vers l'avant. C'est une envie de se réaliser davantage, de s'épanouir, donc de donner du sens à sa vie. Mais on ne dit pas que tout va toujours très bien ou qu'on atteint à un moment donné un certain niveau de nirvana où plus rien ne va nous atteindre, bien au contraire. Je pense même que la psychologie positive, c'est un art de la résilience, bien souvent, parce que on apprend à grandir à travers ce qui a été difficile, nos passages à vide et tout. Comment on peut vivre une vie optimale? C'est beaucoup ça l'objectif. Donc, vie optimale, autant bon, dans le cas de l'APM, professionnellement parlant, mais comme tout est lié, c'est ce que j'aime le plus de ce sujet-là, c'est que dès qu'on commence à travailler au cœur de ça, ben on améliore l'ensemble de l'œuvre parce qu'on ne peut pas juste dire on va travailler sur la vie professionnelle, le bonheur dans la vie professionnelle, sans toucher au bonheur dans la vie personnelle aussi. Donc, c'est ce qui est intéressant. Puis juste pour une petite notion ou un bémol avec le mot bonheur, même ça aujourd'hui dans notre société, c'est un peu complexe parce que c'est devenu un mot très à la mode, mais en même temps galvaudé. Donc, les chercheurs en psychologie positive, parce que tout ça est basé à la base, c'est des recherches scientifiques qu'on fait en matière de, on parle plus de bien-être. C'est sûr que c'est un sujet très subjectif. Mais quand on dit bien-être, ben c'est comment je peux être bien, comment je peux être mieux dans ma vie, autant personnelle que professionnelle, puis avoir un impact qui va amener ça chez les autres personnes qui vont me côtoyer, donc les collaborateurs, les clients, et ainsi de suite, évidemment.
Alors Christine, est-ce que tu as essayé de répondre aux 6 prochaines questions avant même que je te les ai posées? Parce que là, tu me savonnes la planche. Alors, j'aurais une solution qui serait de refaire mon intro remplaçant bonheur par bien-être. Et là, je pourrais gagner une minute. Tu nous as dit que la psychologie positive, ce n'était pas la pensée positive. Et derrière ça, tu mets des fondements qui vont être scientifiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fondements scientifiques dans lesquels s'inscrivent ces questions de psychologie positive?
Oui, en fait, tout ça a commencé en 1998. C'était le docteur Martin Seligman. Il était alors président de l'Association américaine de psychologie. Et l'histoire est très mignonne, là, je la raconte souvent en ouverture d'ateliers ou d'interventions parce que cet homme-là était un monsieur plutôt bourru, râleur. Tu vois, quand on voit des photos, des images de lui, là, il a l'air, on se dit, mon Dieu, on est surpris qu'il soit à la tête de l'association, qu'il était à la tête de l'Association américaine de psychologie. Mais sauf qu'il l'a dit lui-même, c'est qu'à l'époque, on travaillait uniquement sur ce qui n'allait pas chez l'être humain. C'était ça la psychologie humaine, c'est de dire comment on traite les problématiques de santé mentale, comment on guérit, on peut faire en tout cas un bout de chemin pour guérir ce qui ne va pas. Et lui, à un moment donné, il était dans son jardin avec sa petite fille de 5 ans, Nikki, et il l'a grondée parce qu'elle voulait l'aider à enlever des mauvaises herbes dans le jardin, mais elle ne faisait pas comme il lui avait demandé de faire. Donc, il lui a dit « tu me nuis plus que d'autres choses » et tout. La petite s'est mise à pleurer, est partie, revient quelques instants plus tard pour lui dire « t'as vu? Je pleure plus déjà. » Il dit, oui, bon, bravo. Oui, mais elle dit, tu te rappelles, parce qu'elle avait 5 ans, tu te rappelles quand j'avais 4 ans, je pleurais toujours pour rien, ça durait trop longtemps. Alors, elle dit, si moi, j'ai réussi à 5 ans à ne plus pleurnicher toujours et pour rien, mais toi, tu pourrais peut-être être un peu plus joyeux, gentil, souriant. Et là, elle lui a comme donné tous ses travers. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Mais par contre, pour lui, ça a été une épiphanie parce que ce jour-là, il s'est dit, mais elle a raison et ça ne fait aucun sens. Je suis à la tête de l'Association américaine de psychologie et je ne suis pas un être humain profondément heureux, qui se réalise, qui s'épanouit. Je suis toujours en train de régler des problèmes, je suis toujours dans le négatif et tout. Et c'est comme ça qu'est née la psychologie positive, parce que là, lui, il s'est dit, il faudrait peut-être étudier des gens qui vont bien, des gens qui se réalisent, qui s'épanouissent, qui fleurissent, hein, c'est l'expression, c'est pour ça qu'on parle de botanique appliquée, c'est qu'on dit l'être humain doit fleurir. Et donc, ils se sont mis à chercher des gens qui vivaient comme ça, puis à essayer de voir, de les décortiquer, de dire à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils posent comme action dans leur geste, comment ils se perçoivent, comment ils perçoivent la vie, comment ils génèrent de l'espoir, plus d'émotions positives, comment ils traversent les difficultés, comment ils pivotent, parce qu'on parle du pivotement en psychologie positive, qui est le fait de passer de l'ombre à la lumière de la meilleure façon possible. Donc, c'est comme ça qu'est née la psychologie positive en 98. Et ce qui a fait que, ben moi, ça m'a intéressé beaucoup parce que là, c'était des scientifiques, des chercheurs qui, tout d'un coup, ont voulu prouver ce qui était le plus aidant chez l'être humain. Donc, on a fait des recherches extraordinaires. Quand on parle de méta-recherche, donc des milliers de participants, parce que c'est ça aussi dans le domaine subjectif de la psychologie. Des fois, on va vous dire, ah ben oui, il y a une recherche scientifique là-dessus. Mais s'ils ont analysé 30 personnes, ça a pas, pour moi, ce n'est pas une valeur très grande. Donc, quand on parle de méta-recherche, beaucoup, beaucoup de monde. Puis souvent, c'est sur plusieurs années en psychologie. Donc, il y a une recherche dont je parle beaucoup dans mes interventions par rapport aux relations qu'on entretient avec les autres et à quel point c'est primordial. Mais cette recherche-là, elle a duré 75 ans à l'Université d'Harvard. Donc, on a suivi pendant 75 ans de temps près de 900 personnes. Complètement fou.
Celle-là, qu'est-ce qu'il racontait dans cette recherche? Cherchait à prouver quoi?
On cherchait qu'est-ce qui était un peu on avait appelé ça the good life study. Donc, qu'est-ce qui fait, what makes a good life? Qu'est-ce qui fait une belle vie? Ce serait quoi les ingrédients d'une belle vie? Et ce qu'on a découvert au bout de 75 ans, mais en fait, quand on a lancé la recherche, on demandait aux gens, on pouvait demander, ben, vous pensez que c'est quoi? Et les gens répondaient, c'est le succès, c'est la notoriété, c'est la prospérité, ce genre de choses. Et 75 ans plus tard, quand les premiers résultats de recherche sont sortis en 2015, et on a découvert que le facteur numéro un du bonheur, il n'y a rien de plus puissant pour nous rendre heureux que les relations qu'on entretient avec les autres. Donc, encore une fois, imaginez en temps de pandémie, comment c'est important, vu qu'on n'a plus la capacité ou la possibilité de voir autant, de toucher les gens qu'on aime, d'être en présence et tout. Bien, il faut compenser, il faut avoir de nouvelles idées, il faut être créatif, il faut faire les choses autrement parce que c'est primordial pour notre bonheur. Et quand on parle bonheur, je veux juste faire donner un détail de plus, c'est qu'on dit qu'il y a deux types de bonheur, ce qu'on a découvert selon les recherches. Il y a le bonheur hédonique, qui est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Et il y a le bonheur eudémonique, qui est un bonheur profond et durable. Donc, c'est sûr qu'en psychologie positive et dans les interventions que je fais, moi, je travaille plus sur le bonheur eudémonique, le bonheur profond et durable. Mais en même temps, le bonheur hédonique est très important aussi. Quand on s'arrête sur l'heure du lunch, qu'on mange ensemble, qu'on a du plaisir, parfois on prend un bon verre de vin. Là, vous m'avez appris ça en France, qu'on prenait du vin parfois même sur l'heure du midi. Est-ce qu'on fait moins au Québec? Mais ça, c'est du bonheur hédonique.
Et est-ce que les deux s'opposent?
Non, pas du tout. En fait, ils se complètent. Okay. Les deux sont importants. C'est important d'avoir du bonheur hédonique, sauf qu'un être humain qui ne fonctionnerait qu'avec le bonheur hédonique deviendrait, c'est une autre recherche, là, mais il deviendrait en habituation hédonique qu'on appelle ou adaptation hédonique. Ça, c'est les recherches qui disent qu'on s'habitue à tout, même au bonheur, même au plaisir. Donc, l'habituation hédonique, ça fait qu'on va toujours avoir besoin de plus. Donc, c'est un vide qu'on crée plus qu'un plein. Là, on est toujours à la recherche d'autres choses, d'autres sensations et ça devient très étourdissant. Il n'y a pas de profondeur à ce moment-là.
On est obligé d'augmenter la dose.
On est obligé d'augmenter la dose tout le temps. Ça devient comme une dépendance, en fait. Tandis que quand on parle de bonheur eudémonique, bien là, on travaille à découvrir quelles sont nos valeurs profondes ou celles de l'entreprise, comment générer plus d'émotions positives, comment même il y a des ratios, il y a un ratio de positivité qui nous apprend. Ça prend quoi? Combien d'émotions positives pour neutraliser les négatives? Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Faut être conscient aussi que l'être humain, on a un biais, BIAS, de négativité. Donc, on voit ce qui est négatif d'abord. C'est pour ça qu'on a tendance parfois à râler, à critiquer en premier. C'est les gens qu'on va toujours entendre en premier. Donc, il faut le savoir. Il faut être préparé à ça. Il faut en être conscient pour aller plus loin. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça qu'on apprend en matière de bonheur eudémonique. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la notion de sens. Donner du sens à notre vie et le percevoir, parce qu'il y a du sens qui est déjà là. C'est notre responsabilité de le percevoir. Puis, il y en a qu'on peut créer, qu'on peut donner carrément dans notre vie personnelle que professionnelle.
Alors ça, on va essayer d'y revenir un peu plus tard. Hein, mais tiens, dans les billets, moi, quand tu disais billets de négativité, quand j'ai préparé cet échange, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle tu expliques qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la faculté à devenir, enfin, allez, bien-être. On parle de bonheur, on a le droit quand même.
Oui, on a le droit, on a tous les droits.
Ah, merci. Merci. Être heureux. Et une chose que j'ai découvert, tu dis que 50% de notre faculté viendrait de la génétique. Mm.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les recherches, mais oui, ça, ou à peu près. Là, ce qu'il faut savoir aussi, peut-être une autre notion importante, c'est justement parce que le bien-être ou le bonheur, c'est quand même très subjectif. Quand on parle de pourcentage comme ça, ben, selon les recherches, on a fait des beaux graphes, là, tout égaux, là, tu sais, on va dire 50, 10, 40. C'est sûr que si on s'analysait tout le monde dans un groupe, ben, on n'arriverait peut-être pas au même pourcentage. Ça varierait un peu, mais ça demeurerait autour de ça. Donc, 50%, oui. Je me tiens toujours au courant des recherches qui continuent de se faire. Et là, je me suis rendu compte que les dernières années, là, on dirait que la génétique, ça baisse un petit peu. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le pouvoir qu'on a sur notre vie, c'est ça qui augmente. Donc, c'est parfait. Mais oui, 50% de notre bonheur, notre niveau de bonheur chronique, là, le niveau de bonheur chronique, c'est le niveau de bonheur qu'on entretient en général, peu importe ce qui nous arrive. Donc, qu'il nous arrive un événement de l'ordre de l'extatique, gagner au loto, réussir quelque chose qu'on a voulu réussir depuis très longtemps, ou quelque chose de très négatif et souffrant, c'est sûr que là, le bonheur va varier, mais rapidement, il va se replacer au même niveau où il était, ce qui est notre niveau de bonheur chronique, là, qu'on appelle. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Ben, 50% de génétique. Moi, en bon québécois, là, je dis toujours, si vous venez d'une famille de chialeux, de négatifs, de critiqueux, ben, ça fait partie de vous pour 50%. Et souvent, on le sait parce que la façon dont on se lève le matin, on se réveille, c'est déjà un bon indicateur. Est-ce qu'on se réveille bougon ou avec le sourire, plein d'espoir d'une belle journée à venir? Très lié en général à notre génétique. Puis là, ben, si on poursuit cette étude-là, on se rend compte que 10% seulement de notre bonheur, niveau bonheur chronique, est lié à nos circonstances de vie. Ça veut dire, je vis, j'habite où, avec qui, je fais quoi de ma vie, je fais quel type de boulot, combien je gagne, ce genre de choses-là, c'est juste 10%, c'est à peu près.
C'est fou que ce soit que 10%.
C'est rien. Puis on a toujours pensé que c'était beaucoup plus important. Tu sais, on a l'impression que si on a une plus grande maison sur le bord de l'eau, un amoureux plus gentil ou une amoureuse plus jolie, je sais pas quoi, évidemment, je fais des blagues. Que ça va améliorer notre niveau de bonheur. Pas du tout, pas du tout. En fait, ce qui est le plus important dans cette recherche-là, c'est la finalité, c'est le 40% restant, si vous avez fait le calcul. Alors, il reste 40% qui est lié à nos activités volontaires. Qu'est-ce que je vais faire concrètement ou à quoi je vais choisir de penser pour être heureuse ou aller mieux? Donc, ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on a 40% de pouvoir sur notre vie. Puis, on le sait, si vous avez étudié des gens qui ont réussi, vous l'avez vu. T'sais, même les gens qui ont vécu les pires choses, je pense à Viktor Frankl, avec les cas de concentration, par exemple, qui a créé la logothérapie, qui était une forme de thérapie pour aider les gens à donner du sens à leur vie et à guérir de leurs blessures profondes. C'est formidable quand on voit ça. On se dit, ben, lui, il a vraiment agi, il a joué dans son 40%, là, parce qu'il avait toutes les raisons de se laisser aller puis de dire, oh, la vie, c'est difficile, c'est compliqué.
Il devait avoir déjà des super facteurs génétiques. Il partait, à mon avis, avec une bonne base.
Peut-être aussi, mais moi, je vais vous faire une confidence. Moi, côté génétique, c'est pas terrible. Alors, et j'étais une enfant très triste, timide, triste. Et c'est pas pour rien, probablement, que je me suis autant intéressée au bonheur. Comme je dis souvent, on s'intéresse pas au bonheur comme ça quand on le vit, hein, quand on le vit pleinement. Donc, et je considère, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Et sincèrement, j'ai pivoté. Je veux dire, il m'arrive encore des choses difficiles. J'ai encore des choses souffrantes. Ma mère est décédée il y a quelques mois, justement, de la COVID. Ce genre de choses-là, on n'a pas le contrôle là-dessus et c'est extrêmement souffrant à traverser. Mais je pense qu'en cours de route, on remplit notre coffre à outils. Puis on sait, on va moins... L'image que j'ai, là, c'est qu'on va moins creux dans le fond du baril quand ça ne va pas ou on reste moins longtemps. Et ça, c'est important. Et surtout, là, tu m'ouvres une porte, Rémi, que je trouve importante pour l'entreprise. Ce que je vois beaucoup, je travaille avec des grandes entreprises, beaucoup au Québec, là, pour aider les employés et les collaborateurs à aller mieux, à être plus performants, mais dans le bonheur, là, d'une certaine façon. Et ce que je me rends compte, c'est que ce qui est très, très nuisible, pourquoi les employés ont du mal à collaborer ensemble parfois, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi c'est lourd et compliqué et complexe et tout ça, c'est souvent parce que chacun nourrit pas, tu sais, cette capacité à être heureux. Donc, ils sont dans leurs problématiques, ils demeurent dans leurs blessures, leurs souffrances, et c'est ce qui trimballe et c'est ce qui renvoie aux autres avec qui ils interagissent. Moi, mon rêve, là, mon fantasme ultime, là, ce serait ça, là, c'est de pouvoir enseigner, même, je suis en train de développer ça au Québec, mais j'enseigne la psychologie positive à la Paris School of Business, j'ai une charge de cours là-bas. Là. Je me dis, je pourrais le faire dans les entreprises. Imagine si on enseignait ça à tout le monde, ces principes de base, juste les grands principes de base, puis qu'on leur donne envie de prendre soin d'eux-mêmes, d'aller régler ce qui est à régler, travailler sur eux. Écoute, ça change tout après. Là. Moi, je l'ai vu concrètement. J'ai vu des gens qui ont cheminé, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est formidable. Puis là, on ne parle pas de cheminement. Là, c'est pas d'aller faire de la thérapie pendant des années. Là. C'est des petits trucs tout simples, concrets, mais surtout qui amènent des résultats. C'est ça qu'on veut.
C'est comment, par exemple? Donne-nous un ou deux petits trucs tout simples, concrets, là, que tu enseignes et qu'on peut appliquer. Et en particulier, je vais préciser ma question parce que on est dans une période particulière. On enregistre aujourd'hui, on est tout à la fin du mois de mars 2021. Donc, pandémie mondiale depuis un an. On est tous à distance les uns des autres. C'est en train encore de se durcir. Là, en tout cas, nous, en France, on revit à nouveau une période où on est encore plus à distance. Quelles conséquences tu observes que ça peut avoir et quelles solutions tu aurais à ou quels conseils tu aurais, quels tips tu pourrais nous donner?
Oui, ben, c'est la même chose ici. Hein. Pour nous aussi, la pandémie, ça nous affecte énormément. Et actuellement, ce qui est très difficile pour nous, j'imagine que ça ressemble chez vous, c'est entre autres le télétravail. Tous ces employés qui n'ont pas été habitués à être tout seuls chez eux continuellement. Au début, c'est presque le fun, là, en bon québécois, parce qu'on se dit « Ah, c'est nouveau, tiens, je peux travailler de chez moi, je me sens plus libre. » Bon, il y a peut-être des avantages, mais là, plus ça s'étire dans le temps, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des lacunes, là, que là, on aurait envie de voir les collègues, qu'on trouve que ça commence à peser plus lourd et tout. Donc, évidemment que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut trouver, toujours pareil, il faut sortir du cadre, en quelque sorte, il faut utiliser notre créativité, notre imagination, pour essayer de mettre en place de nouvelles façons de faire et d'être qui vont justement revamper un peu la situation, nous donner du plaisir, du bonheur et tout. Donc, petit truc juste très simple, là, entre autres, sur lequel je travaille avec certains groupes ici, c'est, on appelle ça de primer notre environnement de travail. Là, tu sais, je sais pas si vous dites ça en France, nous, quand on repeint des murs là, dans une maison peinture, ben, on met de l'après avant d'utiliser la peinture, c'est ce qui prépare. Là, tu sais, ça ressemble à de la peinture, ça s'appelle de l'après. En anglais, ça s'appelle du primer. Donc, on dit on doit aussi primer notre environnement de travail pour qu'on soit plus efficace. Donc, moi, j'ai vu des gens, à un moment donné, on analysait dans des groupes d'employés, puis on leur demandait, envoyez-nous des photos, vous êtes où, là? Comment vous êtes organisé? J'ai vu du monde, là, face à un mur, c'est embourbé, je veux dire, c'est pas logique, là, tu seras jamais capable d'être bien puis d'être performant dans un environnement comme ça. Donc, bon, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je trouve beau? Il y a même des exercices qu'on peut faire. Il y a un test qui existe, là, en psychologie positive, auquel on peut avoir accès via Internet, qui nous dit vraiment nos forces de caractère en ordre de priorité. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et quand on fait ce genre de test, bien là, on se rend compte, par exemple, pour moi personnellement, là, en numéro un, j'ai reconnaissance de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? La beauté, c'est très relatif. Mais moi, il faut que je trouve ça beau. Moi, il faut que je sois dans un environnement où je trouve que c'est beau. Sinon, c'est sûr que je donne pas le meilleur de moi. Mais pour une autre personne, c'est pas important de trouver ça beau. Par contre, ça va être important d'être confortable, d'être assis confortablement, ou peut-être ça va être ce qu'on entend, c'est lié à nos cinq sens. Puis des fois, moi, je vais dire même, ça peut aller jusque dans les couleurs, l'analyse des couleurs, de où on se trouve, des objets qui se trouvent devant nous, de ce qu'on aperçoit. J'ai vu des gens juste de mettre des images, des photos de personnes qui les énergisent. Ben ça a eu un impact positif, même si la personne n'est pas là en vrai, ben au moins... On a essayé toutes sortes de choses. Et c'est ça que j'aime en psychologie positive, c'est qu'il y a toutes les recherches qui existent. J'ai mené moi-même au Québec une grande recherche sur la psychologie positive, qui s'est appelée mon projet bonheur. Et ça m'a permis de faire des tests comme ça. Puis, entre autres, ce que je refais actuellement, c'est par exemple, OK, les collègues de travail sont pas là physiquement avec nous. Est-ce qu'à la limite, peut-être qu'il y a une personne m'a demandé, elle m'avait dit, ben moi, je me suis fait un tableau. J'ai mis les photos de mes collègues de travail habituels quand j'étais à mon bureau, là, en présentiel. Alors, j'ai mon tableau devant moi, ils sont là. Puis, ce qu'elle me disait, elle dit, je sais pas, tu sais, jusqu'à quel point ça m'aide ou pas, mais elle dit, en tout cas, à chaque fois que je regarde mon tableau, je souris. Fait que c'est déjà ça. Donc, elle a l'impression qu'elle est plus accompagnée. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Il y en a qui ont décidé de travailler avec plus de musique, d'autres, c'est le silence complet. Bon, ça, c'est un truc. Maintenant, après, dans les tout ce qu'on peut mettre de l'avant, quand on parle juste d'un des éléments, il y a une théorie scientifique du bonheur qui existe, qui est une des recherches les plus importantes, et on nous dit que le premier élément important à notre bonheur profond et durable, c'est les émotions positives qu'on génère au quotidien. En plus, il y a une autre recherche qui nous a prouvé qu'il y avait 10 émotions positives qui sont plus puissantes que toutes les autres. Donc, on a avantage de savoir ce sont lesquelles, puis comment on peut les générer après au quotidien. Bon, il y a tout un travail qu'on peut faire là-dessus aussi en milieu de travail. Par exemple, celle qui a été réputée comme étant non seulement une des plus puissantes, mais en plus une des plus faciles à mettre en application et une de celles qui donne le plus de résultats et même des bénéfices secondaires qu'on appelle. On pense qu'on travaille en matière de bonheur, puis on se rend compte que ça améliore notre mémoire, par exemple. Bien, c'est la gratitude. De dire merci, d'avoir de la reconnaissance. Donc, comment on stimule ça en milieu de travail? Ça, c'est formidable parce que les études nous prouvent aussi que ce qui manque le plus dans les entreprises en milieu de travail, c'est la reconnaissance. Combien d'êtres humains ont l'impression qu'ils ne sont que des numéros, qu'ils ne sont pas vraiment vus, qu'on constate pas tant ce qu'ils font de bien, de bon. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Et c'est moi ce que je trouve beau là, et extrêmement intéressant, ce qui me fait vibrer au plus haut point, c'est que je me dis, il y a tellement de place à amélioration. Sur le côté humain, là, en milieu de travail, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais, comme je dis souvent, il faut le vouloir au départ. Et ça, c'est là que des fois, je trouve qu'il y a un travail aussi de ma part à faire avec les dirigeants d'entreprise, de dire, est-ce que vous êtes ouvert à essayer des choses? Puis, est-ce que vous êtes capable de croire que ça peut fonctionner? Parce que au début, c'est ce qui va lancer, là, évidemment.
Est-ce qu'il te voit arriver en se disant « Ouh, c'est gentil ».
Déjà, il te voit arriver en pensant que je parle de pensée positive, pensée magique, comme comme. Hein? J'ai déjà à défaire ça quand j'arrive. Mais c'est pas grave, là, je commence à être bonne. Après quelques années, là, ça va mieux. Ça va de mieux en mieux.
Et après, une fois qu'ils y croient, et écoute, le temps passe trop vite. On a déjà quasiment terminé cette discussion. Mais par contre, tout à l'heure, je t'avais promis qu'on reviendrait sur la question du sens. J'ai l'impression, vu de ma fenêtre, que le sens, on en parle tout le temps maintenant, mais tout le temps, que toutes les entreprises ont décidé de communiquer que là-dessus. En ce moment, on parle beaucoup, alors en France, je ne sais pas comment c'est outre-Atlantique, mais on parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup... Alors là, le nouveau mot-clé, c'est les entreprises à mission. On entend beaucoup maintenant les entreprises à mission qui reviennent là-dessus. Toi, de ta fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire dans ta bouche, le sens dans son travail et pour les salariés, pour le rallier au concept de bonheur et de bien-être?
Je vais te raconter une petite histoire très rapidement qui va répondre à la question. Je vais répondre en deux temps. Je vais aller le plus rapidement que
rapidement,
je peux.
Il va falloir qu'on conclue. Hein.
Oui, ben écoute, je vais juste vous donner la finalité de l'histoire. C'est Charles Péguy, qui est un auteur, qui faisait un pèlerinage un jour et qui rencontrait des casseurs de pierres sur son chemin. Il demandait à chacun, qu'est-ce que vous faites? Les hommes répondaient, ben je casse des pierres, c'est un métier extrêmement difficile, souffrant, puis bon, il faisait juste se plaindre, parce qu'effectivement, c'était difficile. Et le troisième qu'il rencontre, il le regarde avec un grand sourire, il dit, pourtant il était en souffrance comme les autres d'avant, comme les deux autres avant, mais il regarde, il sourit, il dit, moi monsieur, je bâtis une cathédrale. Donc oui, c'était extrêmement souffrant, c'était difficile comme les autres, mais lui, il savait pourquoi il le faisait. Donc moi, j'ai dit souvent en philosophie, en psychologie, parce que j'ai étudié en philo aussi, puis j'essaie d'amener des concepts à travers tout ça, mais il y a deux grandes questions qu'on va se poser toute notre vie, c'est qui suis-je et pourquoi suis-je ici? Et c'est ça qui va apporter le plus de sens. Mais aussi, actuellement, je pense que ce qui apporte le plus de sens, c'est le pivotement là, dont j'ai parlé au tout début. Donc, de prendre nos difficultés, de prendre ce qui nous a paru comme des échecs, parce que c'est la plupart du temps, ce n'est pas le cas, mais prendre ça puis dire, ben, pivoter en se demandant quel était le cadeau caché là-dedans. Peut-être que je ne l'ai pas perçu encore, mais il y en a un. C'est ma responsabilité, mon travail de le trouver. Parce que si je fais ça, je prends un effet de levier, ça me donne un effet de levier pour réaliser beaucoup plus, puis être beaucoup plus inspirant, rayonnant, etc. Donc, pour moi, c'est beaucoup lié à ça, la notion de sens. Donc, OK, la mission, tout ça, ça en fait partie. Mais aujourd'hui, en temps de pandémie, je veux dire, franchement, on n'est pas à une époque où tout est rose et tout va bien. Donc, il faut faire face d'abord, hein, il faut accueillir ce qui est. Après ça, essayer de s'adapter et donc de pivoter pour éventuellement grandir à partir de ça. Et là, je peux vous dire que j'ai eu assez d'exemples dans ma vie, j'ai eu assez de comptes rendus de recherche et j'ai vu ça dans les entreprises pour dire que c'est formidable ce qui peut arriver. Et c'est ça que j'ai envie de démontrer. Parce que si je parviens à faire ma propre preuve aux gens de ça, je suis une ancienne avocate, hein, j'ai besoin de preuves, ben écoute, je pense que là, moi, j'aurai accompli ma mission en tout cas.
Christine, un grand merci pour cet échange.
Mais merci.
L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à impacter positivement le monde qui les entoure. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces entrepreneurs qui voudraient réinjecter de l'amour dans tout ce qu'ils font tous les jours?
Ah, mais je trouve ça tellement beau que tu dises ça parce que c'est que l'émotion positive la plus puissante, c'est l'amour, pris au sens large, évidemment. Et moi, la question que je pose souvent et dont je parle, puis c'est souvent ce qui a un bon impact dans les interventions APM, je pense que c'est ce qui touche les gens, c'est la fameuse question « Que ferait l'amour? » Et si l'amour étant ce qui est de plus extraordinaire, qui est de plus merveilleux, et si on se posait davantage cette question « Que ferait l'amour? » devant un employé difficile, devant une situation difficile, devant peu importe quoi, c'est une question qui nous élève automatiquement, qui ouvre notre imagination, qui nous rend plus intuitifs et donc on peut avoir un meilleur impact sur tout ce qui nous entoure. Et je pense que si on injectait davantage d'amour dans les entreprises, mais pour ça, là, il faut sortir de l'ego. Il faut sortir de nos pensées qui sont figées, là, qu'on a cru que ça avait toujours fonctionné d'une telle façon. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec la pandémie, avec tout ce qui se passe, est-ce que la vie n'est pas en train de nous demander justement de shaker la baraque en bon québécois, là? C'est-à-dire, on brasse les affaires un peu plus, puis on essaie d'être plus conscient, puis d'avoir des nouvelles idées, puis de mettre ça de l'avant, mais d'être davantage dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour, évidemment.
Eh bien alors, celui-là, voilà, conseil, je me le prends pour moi et puis je me le range bien, bien dans ma poche pour pouvoir le réutiliser dès que l'occasion se présentera. Merci Christine pour tous ces sourires et toutes ces bonnes idées. À très bientôt.
Merci.